7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue. L'école à la radio, 7 milliards de voisins, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, des expériences scientifiques à hauteur d'enfants dès 6 ans, grâce à vous, Gervais Loembe. Bonjour Gervais.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes un ancien professeur de physique chimie. Parlez bien fort dans le téléphone pour qu'on vous entende. Alors, j'avais annoncé qu'on allait étudier la décomposition de la lumière et des couleurs. Et là, vous venez de me dire, avant que nous soyons ensemble en direct, non, je vais trop vite.
Oui, parce que pour bien comprendre cette décomposition de la lumière qui va se faire par la chromatographie, plutôt des couleurs, par la chromatographie, j'ai pensé qu'il serait intéressant de parler d'abord de capillarité.
Capillarité. C'est ça, les cheveux en latin. Donc on va voir comment ça fonctionne. En tout cas, il faut bien préparer une liste de matériel pour réaliser les expériences. Hein, parce que qu'est-ce que vous allez nous démontrer au juste ?
Ben, ce qu'on va nous démontrer, en parler, Emmanuel, c'est que nous avons par exemple remarqué que par les temps qui courent, il fait chaud en France actuellement. Et quand on a un bouquet de fleurs ou une plante en appartement ou dans un bureau, elle flétrit très vite avec le soleil, la chaleur, ce qui n'est pas le cas pour les plantes dehors. Alors, nous allons essayer de comprendre pourquoi.
Alors, il faut préparer tout de suite les parents ou les enfants aidés des grands frères et des grandes sœurs. Une fleur blanche avec sa tige. Un verre de jus rouge du bissap, donc de la fleur d'hibiscus, ou de l'eau avec du sirop rouge, ça peut être du sirop de grenadine. Un verre de solution verte, ça peut être une solution que vous avez, dans laquelle vous avez écrasé une feuille de menthe pour colorer l'eau. Oui. Trois verres transparents, du papier hygiénique, du papier essuie-tout. Et 6 morceaux de sucre dans une coupelle ou une sous-tasse. Et puis, éventuellement aussi, si vous avez un CD, on ne l'abîmera pas, c'est promis, hein, un CD éventuellement aussi avec vous. Voilà, une fleur blanche avec sa tige, un verre de jus rouge, un verre de jus vert, 3 verres transparents, du papier essuie-tout, du papier hygiénique, 6 morceaux de sucre. Et un CD de musique. Ensuite, l'histoire du jour, après la leçon de Gervais Loembe, parmi notre sélection de l'été, Héry et les monstres, à réécouter aussi sans modération sur notre podcast 7 milliards de voisins, des contes à écouter. Et en fin d'émission, suite de notre série, les petits-enfants des indépendances, 60 ans après, des lycéens en Afrique enquêtent sur l'indépendance de leur pays. Aujourd'hui, Walia et l'indépendance du Niger. C'est une série proposée par Charlie Dupio. Je salue toute l'équipe aussi qui prépare et réalise 7 milliards de voisins, l'école à la radio, Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Michael Goncalves. À la technique avec moi aujourd'hui, vos réactions et bien sûr vos questions sur nos réseaux sociaux, principalement en ce moment sur Facebook. Redirigez-vous sur Facebook pour réagir et bien sûr nous relayons tous vos messages.
7 milliards de voisins.
On est tout proche.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins. Et la planète se parle.
Coucou Emmanuel et toute l'équipe. C'est super cette émission. Héloïse, j'adore les contes que tu racontes. Merci. J'ai envie de revoir mes amis. Mais en attendant, comme disait le petit Ahmed, de l'or à merveille. Il y a toujours un moyen d'emmener le bonheur chez soi. C'était Ruxelle Fedora depuis en Haïti. Gros bisous.
Bravo à toi, Ruxane, quelle sagesse! Tu as 7 ans, tu habites à Carrefour, à la périphérie de Port-au-Prince. Et en gros, si j'ai bien compris, il faut savoir se contenter de ce que l'on a dans la vie. Un message pour vous, Gervais Loembe.
Bonjour, 7 milliards de voisins. Remerciez pour moi le professeur Gervais parce que j'ai appris la quantité de produits flammables qu'il y a. J'ai une amie qui a été brûlée en mettant du parfum. Il y avait une bougie allumée et puis elle s'est brûlée presque tout le corps. Merci et puis bon travail.
Merci à vous, Joanne. Un message venu d'Haïti également. Et puis, il y a le message d'Abdoulaye qui est au Sénégal. Merci pour la leçon sur les pictogrammes et leur signification à laquelle faisait allusion Joanne. C'était la dernière leçon avec vous, Gervais, sur les dangers de certains produits chimiques de consommation courante qu'on retrouve dans les produits ménagers à la maison. Dommage, nous dit Abdoulaye, j'ai pas l'impression que ces dangers soient bien enseignés au Sénégal. Du coup, je vais l'intégrer dans le cadre de mon club d'allemand l'année scolaire prochaine. Merci Gervais pour l'inspiration. Voilà, sympa ce message.
Oui. C'est civique aussi.
Un grand merci aussi à notre Gervais, nous dit Ismaïla Nouakchott en Mauritanie. On a retenu pas mal de mots comme combustible, comburant, et on a bien compris que des pictogrammes sont indispensables dans nos vies quotidiennes pour nous avertir des dangers. Combustible, comburant, allez, une petite piqûre de rappel, c'est quoi la différence hein?
Alors, le combustible, il brûle, il s'enflamme. Le comburant entretient la flamme, entretient la combustion. Et j'ai prononcé le mot, c'est le combustible et le comburant qui font une combustion.
Et le comburant, c'est quoi, par exemple?
L'oxygène est un comburant, par exemple. Ouais.
Pour entretenir la flamme, c'est vrai. Voilà, si on souffle sur une flamme, on lui donne de l'air et elle s'entretient. Et c'est comme ça que le vent entretient les incendies. Voilà, allez les voisins, les voisines, à vos réseaux sociaux, continuez de poster vos messages, notamment sur Facebook. Et on démarre dans quelques secondes avec vous, Gervais.
Sept milliards de voisins.
Comprendre ce qu'est la capillarité avec le professeur Gervais l'OMB. Vous avez préparé donc une fleur blanche avec sa tige, un verre de jus rouge, un verre de jus verte, de jus vert, trois verres transparents, du papier hygiénique, six morceaux de sucre dans une coupelle et puis éventuellement aussi un CD et bien évidemment aussi le cahier de laboratoire. Gervais l'OMB aime beaucoup quand les enfants ont leur cahier de laboratoire pour observer, décrire et dessiner. Ça s'appelle faire des sciences au quotidien. Et on peut le faire dès 6 ans. Hein. Ruxane qui nous postait son message d'Haïti, elle a 7 ans. Elle peut faire ce que vous décrivez, hein, Gervais.
Oui, absolument. Et surtout, ensuite, le relire un peu plus tard, quand vous serez en 4e, 3e, et pourquoi pas au lycée. Vous verrez que l'aspect intéressant de tout ça, c'est son universalité, que vous soyez sur un continent ou un autre, ces phénomènes restent les mêmes, les observations et surtout les enseignements dont on peut en tirer restent les mêmes.
Et selon les âges, on peut aller plus ou moins loin, bien sûr, dans la physique et la chimie.
Oui.
Alors, on démarre avec une première manipulation. Qu'est-ce qu'on va découvrir sur la capillarité, Gervais?
Alors, ce qu'on va faire, et vous avez dit capillarité, qui dit capillarité rappelle capillaire, donc cheveux. Alors, quel rapport tout ça avec les cheveux? Nous allons le voir un peu plus tard. Vous prenez donc votre tige de fleur blanche, donc, ou une fleur de couleur claire, une fleur blanche, on peut la ramasser dans les prés, dehors, ça se trouve assez facilement. Plongez cette fleur dans un verre d'eau colorée. Alors, cette eau, ça peut être une solution colorée, ça peut être une solution contenant de la grenadine, un verre de bissap, ce jus rouge que l'on trouve assez couramment en Afrique, ou alors, si vous en avez les moyens, avec un colorant alimentaire rouge. Eh bien, cette solution rouge, quand vous aurez planté ou vous aurez plongé la fleur
blanche... Je la plonge donc comme si je la mettais dans un vase, finalement.
Absolument, tout simplement.
D'accord.
Et vous allez attendre. Le seul problème, c'est qu'on risque d'attendre quelques minutes et peut-être même quelques heures. Alors, je vous en prie, vous allez laisser cette fleur dans le verre coloré et attendre quelques heures, si possible, nous envoyer la photo dès que vous aurez fini, parce que au bout de quelques minutes, en tout cas la durée de l'émission, on verra que le début de l'observation.
Et oui, ça peut aller assez vite en fait. Hein. On va voir que le colorant de l'eau, que l'eau colorée, va s'infiltrer, va remonter jusqu'au pétale très clair de la fleur, c'est ça.
Voilà, et la fleur qui était blanche va être de la couleur du liquide. Alors, si vous avez utilisé une solution, en tout cas une un liquide rouge, vous allez voir, la fleur sera rouge. Si vous avez utilisé la solution verte, vous allez voir, la fleur deviendra verte, et ainsi de suite.
Quel rapport avec, vous nous parliez de capillarité, donc qui vient du latin qui signifie cheveux, quel rapport avec les cheveux ?
Bien tout simplement parce que si on regarde bien d'un peu plus près, on verra que même la tige a des petits filaments. Alors ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que le liquide est monté dans les tiges, s'est infiltré à travers les pétales, est arrivé jusqu'à la colorée. Ça veut dire quoi ? C'est que l'eau est montée dans des canaux, dans des voies, des tubes aussi grands qu'un cheveu, le diamètre du cheveu.
C'est-à-dire l'eau est montée, la couleur est montée le long de la tige de la fleur, c'est bien ça ?
Oui, à travers justement ces canaux qui sont aussi petits qu'un cheveu. Oui. C'est pour ça qu'on parle de capillarité. C'est grand comme un cheveu. Oui.
Mais comment l'eau, sur le plan physique ou chimique, je ne sais pas, Gervais, comment l'eau peut monter le long de la tige, alors que c'est le contraire de l'inertie. L'eau, en général, si on la verse, elle tombe, elle ne monte pas.
Nous y voilà. Et c'est ça l'intérêt de cette expérience. On constate que quand on prend une goutte d'eau, on prend de l'eau, n'importe quel objet, on l'a dit la dernière fois, sous l'effet de la gravitation, l'objet tombe. Oui. Et là, on observe pratiquement un phénomène inverse. C'est-à-dire que vous prenez une tige, un tube, dès que vous mettez, alors si vous prenez un tube normal, vous mettez dans de l'eau, cela ne monte pas. Mais si vous arrivez à avoir un tube assez fin et même très fin, notamment aussi fin qu'un cheveu, eh bien là, vous observez un phénomène très curieux. Cette fois-ci, c'est l'eau qui va monter, ça va à l'inverse de la gravitation.
C'est-à-dire que moi, si je trempe mes cheveux dans un verre d'eau rouge, mes cheveux vont se colorer au-delà de la partie immergée dans le verre.
Ce qui risque de se passer,
là, je vous
c'est
pose
que...
des cols.
Hein. Oui, c'est bien, justement, on est là pour ça. En fait, ce qui risque de se produire, c'est que il faut qu'il y ait une voie, un vaisseau suffisamment petit pour qu'à l'intérieur, il y ait un effet d'aspiration dans le tube, jusqu'en haut de ce tube. Oui.
Alors,
là, nous allons le revoir avec la deuxième expérience.
Alors, revenons au cahier de laboratoire, parce que vous y tenez beaucoup, Gervais Lohembe. Oui. On a donc dessiné le verre, coloré en rouge à l'intérieur, avec le niveau d'eau. Hein. On a dessiné la fleur avec la tige qui est plongée dans l'eau. Et on va faire le deuxième schéma après quelques minutes ou quelques heures en fonction du temps que ça prend pour que les pétales se colorent. On va bien dessiner la fleur avec les pétales qui se sont colorés en rouge. Hein. Et voilà. On a décrit ce que l'on a vu.
Oui, alors moi je serais bien curieux.
Et en langage physique surtout, la phrase importante à noter, où là l'expérience devient une expérience scientifique au-delà de la petite manipulation marrante, qu'est-ce qu'il faut qu'on ait bien noté sur notre cahier de laboratoire ?
On est bien observé que là, cette eau, en fonction de sa couleur, c'est-à-dire verte, bleue ou rouge, qui était dans le verre, est montée jusqu'au pétale. C'est quelque chose qui est surprenant parce qu'on aurait pu s'attendre que ça ne monte pas déjà et que ça puisse éventuellement tomber. C'est ce qu'on nous a dit avec la gravitation.
Ouais.
Et on voit que cette eau-là ne tombe pas, elle monte.
Alors, pendant que vous faites l'expérience, n'oubliez pas d'envoyer vos photos sur notre page Facebook, les voisins et les voisines. Postez les photos aussi des enfants qui font les expériences. Et on passe à une deuxième expérience, toujours autour du phénomène de la capillarité, Gervais Lohembe.
Oui, de la capillarité. Alors là, on va faire une expérience qui sera beaucoup plus rapide que celle qu'on a faite tout à l'heure. La première expérience est une expérience qui est, on va dire, assez longue. On dit qu'elle n'est pas spontanée au niveau du résultat. Et ça, il faut le noter aussi. Toutes les expériences ne se font pas de façon immédiate. Il faut un temps. Alors, il y a des expériences qui ont un temps extrêmement court, c'est le cas des explosions, ou quand ça s'enflamme, c'est immédiat. Il y a des expériences qui mettent un peu plus de temps. Et il faut le savoir, une expérience demande justement, il y a une vitesse qui est plus ou moins longue et celle-là va être un peu plus longue. La seconde va avoir une longueur beaucoup plus courte, en tout cas elle sera plus rapide. Alors ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. On va prendre du papier hygiénique par exemple, hein, que l'on va, on va prendre allez, 20 cm de papier hygiénique, on va torsader pour... ou encore du papier essuie-tout qu'on va torsader.
Donc je le tord, j'en fais une espèce de corde un peu, hein, c'est
voilà,
ça.
Voilà, on s'est bien compris. Eh bien, ce qu'on va faire dans ces conditions, dans un des verres, nous allons mettre notre liquide coloré, qui peut être une solution verte, parce qu'obtenue avec un colorant vert, quel qu'il soit. Et à l'autre extrémité, nous aurons un verre vide.
D'accord. Alors, on a les deux verres côte à côte. Un verre avec de l'eau colorée, un verre vide.
Voilà. Eh bien, on va remplir donc l'un des verres avec de l'eau colorée à plus de la moitié environ, pour que ça aille un peu plus vite.
D'accord.
Eh bien, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va tremper dans un des verres, c'est-à-dire le verre plein
la d'eau torsade colorée. De papier toilette, hein.
Voilà, dans le verre, et l'autre extrémité de la feuille ou la serviette en papier torsadé, dans le verre vide.
D'accord, donc il y a un bout de la torsade de papier hygiénique dans le verre coloré, l'autre bout dans le verre vide, d'accord.
Absolument. Et on va attendre. Eh bien, on ne va pas attendre longtemps.
Ça va, ça va vite, parce qu'en plus, c'est du papier qui absorbe très vite. Hein.
Oui. Et là, on voit rapidement quelque chose se faire.
C'est assez incroyable, d'ailleurs.
Oui, ça va vite, oui.
Hein, c'est-à-dire que là aussi, ça remonte. Hein, on est à l'inverse de la force d'attraction, de la gravitation. L'eau colorée remonte dans le papier, le papier toilette, le papier hygiénique, le long de la torsade.
Oui.
Ça remonte, et ça passe dans par-dessus, voilà. Ça va dans le verre vide.
Oui.
Alors qu'il n'y a pas d'eau dedans.
Non, pas du tout. Et si vous attendez comme ça cette expérience pendant, allez, une heure ou deux, vous allez voir au fur et à mesure, l'eau va passer, et ce verre-là, le deuxième verre, sera, somme toute, rempli aussi d'une bonne quantité d'eau.
Une pompe aspirante pour pas cher.
Pratiquement, oui. Et là, on peut encore se poser la question. Alors, vous avez compris que nous, en science, ce qu'on fait d'abord, c'est d'observer un phénomène. On constate, parfois même par hasard, qu'en trempant un papier hygiénique torsadé ou une serviette en papier torsadé dans un verre contenant un liquide, quand on le met de l'autre côté, on voit la couleur se déplacer, l'humidité se déplacer, le liquide se déplacer d'un verre à l'autre. Nous avons observé une fois de plus une... Alors, le terme utilisé en science est une migration.
Ah.
Une migration, oui, ça s'appelle une migration d'un côté à l'autre sur ce support qui est le papier hygiénique, papier support, papier buvard, ou tout simplement, ça se fait très bien aussi avec le filtre à café.
Ah oui.
Voilà, nous avons observé la capillarité qui va avoir pour support ce phénomène de le papier hygiénique et qui permet de passer d'un récipient à l'autre en passant par des petites voies, des petites canules, des petits tubes et qui permettent d'aspirer l'eau qui est d'un côté et passer à travers ces voies-là qui sont aussi fin qu'un cheveu, c'est le constat que l'on fait, pour se retrouver de l'autre côté.
Donc on assiste à une migration à travers des espaces, des voies, fin comme un cheveu, donc.
Oui.
Et donc on est bien à nouveau sur le phénomène de la capillarité.
Capillarité. Alors, donc, on s'est dit ça, c'est bon. Alors, quand on refait notre dessin, on montre bien ce qu'on est en train. On dessine bien avec des croquis, ce n'est pas un dessin, mais c'est un schéma simple pour bien montrer ce qui s'est passé. C'est tout. On n'a pas besoin de faire un dessin artistique.
Oui, ça, je sais que vous aimez bien insister là-dessus. Nous faisons des sciences et non pas de l'art. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, abordons la troisième expérience et surtout, ensuite, essayons de voir quelles sont les applications scientifiques de ce phénomène de la capillarité. Qu'est-ce que c'est la troisième expérience ? Avec les morceaux alors, de sucre, hein, j'imagine, qu'on a préparé.
Alors, elle est très amusante, d'ailleurs, parce que vous mettez... Alors, vous pouvez même essayer avec deux ou trois... couleurs différentes, hein, une solution de couleur rouge, de couleur verte. Et là, on va poser, par exemple, allez, trois morceaux de sucre
dans la coupelle, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Dans la coupelle dans laquelle on a mis cette eau colorée.
Voilà. Mmh. Et là, on va remarquer, et là, vous allez voir qu'à l'inverse de ce qu'on a vu sur la première expérience, cette troisième expérience est très rapide et immédiate. La première, on verra bien ce qu'elle donnera dans deux jours, dans deux heures. La seconde, elle s'est faite tout doucement, elle est en train de se faire encore. Vous voyez, la vitesse est moyenne. Là, nous avons quelque chose d'immédiat.
Alors, on a posé les trois morceaux de sucre et on voit que le sucre s'imbibe.
Il monte immédiatement.
Hein, de cette eau colorée. Et ça se voit à l'œil nu puisque l'eau est colorée, ça se voit encore plus facilement. Si on rajoute, si on empile encore des morceaux de sucre, parce que dans la liste du matériel, moi, j'ai bien vu six morceaux de sucre. Ça veut dire que si on continue à empiler... Bon, j'imagine, peut-être pas de la hauteur de la Tour Eiffel, mais l'eau colorée continuerait de monter. Elle peut monter jusqu'où, comme ça ?
Ben, c'est là que c'est amusant. Alors, il y a un petit système à faire, mais déjà, quand on met les trois, par exemple, on voit que tout de suite, le premier morceau, il est imbibé, il passe au deuxième morceau, il passe un troisième morceau. Ouais. Il y a même des concours qui se font comme ça pour savoir jusqu'où ça peut aller, jusqu'à combien de morceaux on peut, en fonction de ce qu'on avait vu au départ.
Oui.
Bah, le premier morceau s'écrase, vous me direz, au bout d'un moment.
Oui, c'est ça, il n'existe plus. Donc forcément, la pyramide descend. On décrit donc à nouveau ce phénomène de capillarité, c'est-à-dire l'eau colorée qui se déplace et qui monte au travers des morceaux de sucre. Qu'est-ce qu'il faut dire scientifiquement là ? Parce que là, moi, je vous l'ai dit comme la profane du coin.
Oui, eh bien là, donc, nous avons eu cette migration, donc, ce qui nous a permis de constater que quand nous avons des tubes assez fins et long, en tout cas d'un diamètre très très faible, on peut constater que nous avons eu un phénomène d'aspiration d'un liquide d'une extrémité vers une autre. On verra un peu plus tard les phénomènes de pression. Eh bien, cela, on va le retrouver dans les arbres, par exemple. Quand vous avez un arbre dehors chez vous, ou même dans la rue, sachant que cet arbre va avoir des racines qui lui permettent de tenir. Eh bien, si vous estimez qu'un arbre fait à peu près, allons-y pour 15 mètres environ, imaginons-nous que nous avons à peu près l'équivalent dans le sol en matière de longueur. C'est-à-dire, un arbre qui fait à peu près 15 mètres aura à peu près 15 mètres de racines en dessous. Eh bien, il va falloir alimenter, et nous le savons tous, hein, alimenter en eau les fruits qui sont à la cime de l'arbre. Qu'est-ce que vous croyez qu'on fait ? Il n'y a pas de pompe dans le sol pour envoyer tout ça.
Non. Donc c'est bien naturel de la capillarité, c'est-à-dire que l'arbre est capable d'aspirer l'eau et de le faire monter jusque dans les branches et les fruits, c'est ça ?
Exactement, vous avez vu à quel point, de quelle façon les fruits sont engorgés d'eau. Il y a 90% d'eau dans un fruit, mais le fruit il est à la cime de l'arbre. Eh bien, cette eau vient du sol, du sous-sol, par ce phénomène
de capillarité. Vous nous parliez de pression il y a quelques secondes. Une question d'un internaute qui est à Brazzaville qui nous demande « Y a-t-il une action de la pression atmosphérique dans le phénomène de capillarité ?»
Oui, il y a un effet de pression, effectivement, que je souhaiterais aborder un peu plus tard pour ne pas...
Oui, c'est-à-dire que là, on est parti des expériences pour les 6-8 ans et là, on arrive vers les cours de lycée. Mais c'est bien, c'est super,
absolument.
Gervais.
Oui, et donc, ce qui reste, effectivement, il y a ce qu'on appelle un phénomène de pression atmosphérique, osmotique d'ailleurs, qui va faire que à 15 mètres du sol, vous allez prendre de l'eau et le remonter à 15 mètres au-dessus du sol. Donc, ce liquide, cette eau, va parcourir pratiquement 30 mètres. je ne sais pas si vous réalisez, ah oui, mais c'est quelque chose d'énorme. Et voilà un phénomène universel qui permet à une plante, à un arbre surtout, de rester avec ses feuilles bien vertes, bien solides là-haut, alors que si vous oubliez de mettre vos fleurs dans un pot, au bout d'une heure, vous allez voir, elles seront complètement flétries. Ouais. Eh bien, les feuilles et les fleurs d'un arbre ne sont jamais flétries parce qu'il y a ce phénomène de capillarité qui permet de prendre l'eau du sol et d'alimenter régulièrement les cimes des arbres et garder cette humidité.
Alors, donc, je crois qu'on a bien compris le phénomène de la capillarité. Hein. Une autre expérience qui va nous amener à la leçon suivante la semaine prochaine, Gervais, avec le CD, pour ceux qui ont préparé le CD de musique qu'on ne va pas abîmer.
Oui, alors je voulais pas vous laisser comme ça sans l'utiliser, Emmanuel, vous y teniez tellement à ce CD. Eh bien, ce qu'on pourrait faire, c'est on peut décomposer la lumière, parce qu'il était question qu'on en parle aujourd'hui, on peut décomposer la lumière en utilisant tout simplement un CD. Alors, il est de tradition dans les laboratoires sophistiqués d'utiliser ce qu'on appelle des fentes, d'utiliser un certain nombre de dispositifs très très compliqués, notamment les prismes pour décomposer la lumière, nous en reparlerons la prochaine fois. Eh bien là, ce qu'on va faire simplement, c'est de prendre un CD. Regardez, vous avez deux faces, dont une face est, on va dire, réfléchissante ou plus ou moins, comme un miroir. Eh bien, vous allez voir que quand vous l'orientez vers le soleil, vous avez les couleurs de l'arc-en-ciel.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais quel rapport avec la capillarité? Pourquoi c'est une suite logique?
Ben parce que la prochaine fois, nous allons faire de la chromatographie et nous allons parler de deux choses. Dans graphie, vous allez voir, c'est un spectre, c'est des signes, des signes colorés. Eh bien, la capillarité, cette fois-ci, va nous permettre de faire migrer une solution, mais comme cette solution est colorée, elle va décomposer les couleurs de cette solution.
D'accord.
Oui, et
d'accord,
vous verrez qu'il y a des couleurs.
On commence à comprendre. Évidemment, Vous nous tenez en haleine là pour la semaine prochaine, Gervais L'OMB. Avant qu'on se quitte, une question d'Aboubacar qui est à N'Djamena. Il voudrait savoir pourquoi l'eau n'a pas sa propre couleur. Pourquoi l'eau est transparente? D'ailleurs, elle n'est pas si transparente que ça. Ça peut dépendre aussi de la lumière, du soleil, etc.
Oui, l'eau est dite transparente parce que la lumière passe à travers. Elle n'est pas retenue. Disons que les atomes, je vais dire des gros mots, mais la molécule d'eau ne retient pas la lumière, ce qui fait que la lumière passe à travers. Un objet est sans couleur, est transparente quand la lumière passe sans être retenue. Par contre, si jamais pour une raison ou pour une autre, il y a quelque chose dedans qui va retenir une des couleurs, à ce moment, vous verrez cette couleur. Donc, vous verrez du bleu s'il y a une substance qui va mettre en avant, va laisser passer toutes les couleurs, sauf le bleu.
C'est bien noté. Merci beaucoup, Gervais L'OMB. Merci, on vous retrouve donc la semaine prochaine pour la chromatographie.
Vous allez voir, c'est beau.
C'est beau, et bien sûr, il y aura des expériences et des manipulations. Merci à vous, très bonne journée, Gervais L'OMB. Vos commentaires sur notre fil Facebook. Dans quelques instants, une histoire racontée par Héloïse Auria. Eri et les monstres, mais tout de suite une programmation musicale signée Michael Goncalves, danse de salon Le Noiseur.
Je devais aller faire un tour sous les chutes du Niagara, puis faire du hula hoop à Santa Monica. Je devais chanter des chansons sous vos applaudissements, mais pour me consoler, je ferai du karaoké. J'en vois qui danse sur le balcon, j'en vois qui danse. Dans le salon, on dansera encore cet été. Ciel ou plafond collé serré, encore à corps dans ce salon. On fera comme si de rien n'était. On dansera comme ça, juste toi et moi. Je devais partir à LA, mais j'ai plus le droit d'y aller. Je crois que je vais rester chez moi et passer le balai. Si je veux partir en voyage, faudra que j'écoute des Earless. Et pour aller plus loin, je mettrai à fond la caisse. J'en vois qui danse sur le balcon. J'en vois qui danse dans le salon. On dansera encore cet été. Si ciel ou plafond, collés serrés encore à corps dans ce salon. On fera comme si de rien n'était, on dansera comme ça. Veux-tu danser dans le salon? Glisser sur le parquet dans tes chaussons. Veux-tu danser dans le salon? Glisser sur le parquet dans tes chaussons. On dansera encore cet été. Ciel ou plafond collé serré, encore à corps dans ce salon. On fera comme si de rien n'était. On dansera comme ça. On dansera.
Eh oui, on fera comme ça, malgré le Covid quand même. 7 milliards de voisins, l'école à la radio, et tout de suite, une histoire racontée par Héloïse Auréa.
Je vais inventer une histoire.
Il était une fois.
Héry et les monstres. Un conte de François Paquement. Collection Contes des Quatre Vents aux éditions L'Harmattan. À Madagascar, sur les hauts plateaux de la Grande Île, parmi les pâturages, derrière une forêt où l'on peut chasser et ramasser du bois à feu, un village est perché sur une colline et domine une grande étendue de rizières qui scintille au soleil levant. C'est le domaine de Héry. Il a 6 ans et cette année, il va à l'école à 3 km de chez lui dans la vallée. Mais Héry préfère se promener sur les diguettes des rizières. Il chasse les petits serpents avec son chien ou barbote dans l'eau du canal en menant boire les zébus de son père, qui est pasteur. Sa mère travaille à la rizière et sa grande sœur, Saondra, l'accompagne souvent, bien qu'elle aille encore à l'école. Ils sont 4 à partager la maison traditionnelle des gens des Hautes Terres. La maison a des murs épais en terre rouge, percés seulement de 2 petites fenêtres à l'étage. Le rez-de-chaussée est une grande pièce où l'on range toutes sortes d'outils, de matériaux et d'objets. C'est à l'étage que la famille mange, dort et entrepose le riz pour le protéger des rongeurs. Sous une des 2 petites fenêtres, on fait la cuisine sur un foyer et on se chauffe près de son feu à la saison froide. La fumée imprègne toute la maison qui n'a pas de cheminée. Les objets, les vêtements et même la peau et les cheveux des hommes sentent le feu de bois. Mais ainsi, l'air est sec et cela empêche la récolte de moisir. Le mobilier se réduit à 2 lits et à des tabourets bas pour dormir et prendre les repas. On va chercher l'eau au puits. L'électricité n'arrive pas au village. Et on s'éclaire à la bougie ou à la lampe à pétrole. Quand il est seul, en dehors de la maison familiale, Héry a peur. Un grand arbre, un jacaranda, a poussé à la sortie du village. Son ombrage est frais quand il fait chaud. Et ses fleurs bleues s'accordent bien avec le bleu profond du ciel. En toute saison, une vieille femme reste assise toute la journée au pied de l'arbre. Souvent, les enfants du village viennent la voir lorsqu'ils sont inquiets, car elle sait les écouter et les conseiller. Héry lui a longuement parlé de ses peurs et des monstres qui s'éveillent la nuit. Il y a le dragon. Il crache du feu, de la vapeur ou du vent brûlant. Il a des taches assez larges sur tout le corps. Il est lourd et peu agile. Son cou est long et il fulmine tout le temps. Il y a le fantôme. Héry ne peut pas dire à quoi il ressemble. C'est une ombre blanche, silencieuse, qui apparaît et se sauve aussi vite. Silhouette étrange, ni homme ni animal, toujours changeante. Le fantôme pousse des soupirs terrifiants. Il y a le crocodile. À Madagascar, il y en a beaucoup et seuls les chasseurs osent les approcher. Les enfants ne voient des crocodiles que morts, ramenés par les chasseurs les plus vaillants du village après des expéditions terribles. Le crocodile est un animal gourmand, paresseux. Il fait celui qui n'entend rien, mais il est caché, immobile et prêt à bondir. Chacun des trois monstres semble avoir ses habitudes. Le dragon est souvent là en cas de dispute, ou lorsqu'une colère est dans l'air, il se cache dans les coins obscurs. Alors Eri n'ose plus bouger. Le fantôme vient la nuit et attrape son pied lorsqu'il le laisse un peu dépasser du lit. Il déplace des objets autour de lui et fait de petits bruits. Lorsqu'Eri se réveille, il le sent qui le guette. Et il sait bien qu'il ne lui fera rien, mais il n'aime pas sa présence. On ne sait pas ce qui peut traverser la tête d'un fantôme. Le crocodile n'est pas loin lorsqu'Eri ne veut pas aller à l'école, lorsqu'il boude ou lorsqu'il se cache pour ne pas aller chercher le bois. La vieille femme écoute Eri. Elle connaît bien les monstres qui se cachent dans le noir. Tous les enfants en parlent en lui faisant jurer le secret. Lorsque ses visiteurs sont soucieux, les yeux de la vieille paraissent s'ouvrir davantage. Alors avec un bâton, elle dessine les monstres par terre, puis souffle avec les enfants doucement sur le sol et la poussière s'envole, emmenant les monstres au loin. Alors seulement, les enfants goûtent la fraîcheur de l'ombre et apaisés, ils jouent en chantonnant. Un soir, en rentrant chez lui, Eri voit son père qui sculpte une racine. Petit à petit, une forme apparaît et l'enfant qui l'observe attentivement demande « Tu connais la vieille femme qui est toujours assise au pied du jacaranda ?»« Oh oui, elle était déjà là quand j'avais ton âge et elle était déjà toute ridée. »« Tu allais la voir, toi aussi ?» Le père réfléchit un moment et ajoute « J'ai fait beaucoup de dessins sur le sol avec elle. » Alors Eri, tout en fixant les mains de son père, lui parle de ses peurs. Celui-ci lève les yeux pour répondre à son fils. « Tu sais, Eri, ces monstres, je crois que je les connais. En grandissant, je les ai apprivoisés. Ils sont devenus de plus en plus petits. Maintenant, je les aperçois parfois encore, mais ils ne sont plus bien méchants. Les tiens feront pareil. Tu les garderas au fond de toi, un peu comme de vieux compagnons, tu les reconnaîtras, mais ils ne t'inquiéteront plus. Tu sauras, en les voyant, que tu es devenu plus fort qu'eux. » Maintenant, la sculpture est finie. Dans la main tendue vers lui, Eri découvre un petit dragon qui le fixe. Il le reconnaît dans la lumière du soleil couchant. C'est bien celui de ses nuits. Mais dans la main de son père, il est calme et apaisé.
Les monstres est inspiré d'un conte malgache écrit par François Pacquemon dans la collection Contes des Quatre Vents, édité par L'Harmattan. Et maintenant, nous laissons la parole aux petits-enfants des indépendances. Deuxième épisode de notre série « Des lycéens en quête racontent l'indépendance de leur pays ». Vous le savez, 8 pays africains vont célébrer leur indépendance en ce mois d'août. L'été 1960, l'été des indépendances africaines, évidemment, ni eux, ni même leurs parents ne l'ont connu. Ils ont entre 16 et 18 ans, donc une transmission de l'histoire par des jeunes, pour des jeunes. Et aujourd'hui, avec l'aide de Charlie Dupiau, Walia, lycéenne, nous raconte l'histoire du pays où elle vit, le Niger, qui a proclamé son indépendance le 3 août 1960. Le Niger était devenu en 1901 un territoire militaire autonome français, en 1922 une colonie française, en 1946 les colonies deviennent des territoires d'outre-mer selon la constitution de la toute nouvelle 4e République française. Et des élections sont organisées pour que chaque territoire ait son représentant à l'Assemblée nationale française. Alors pour le Niger, ce premier député s'appelle Amani Diori, c'est un ancien instituteur. Il deviendra plus tard le père de l'indépendance. Et Walia, notre lycéenne, revient sur l'histoire de cette indépendance nigérienne avec son regard de lycéenne en note vocale sur WhatsApp.
C'est pour nous un jour d'allégresse.
Notre peuple aura gagné le droit de disposer de lui-même.
Il y a tellement d'émotions qui montrent moi en ce moment.
Le droit de choisir lui-même sa propre voie.
Les petits enfants des indépendances, c'est nous.
C'est nous.
C'est nous. C'est nous.
Le jour qui marquera un nouveau pas en avant de l'Afrique vers un avenir meilleur.
Il est minuit.
Nous sommes les petits enfants des indépendances.
J'ai décidé de me replonger dans l'histoire de ce jour mémorable.
L'histoire de l'indépendance de mon pays, je l'ai apprise à l'école et chez ma grand-mère.
Pour en apprendre davantage, j'ai dû faire un flashback de 60 ans.
Voici donc l'une des plus grandes heures qu'ait connue votre histoire. L'ère coloniale est désormais révolue.
Salut, je m'appelle Walia, je suis nigérienne, mais je suis née et j'ai vécu 12-13 ans au Burkina et je suis en classe de première.
Retracer l'histoire de l'indépendance de mon pays, je me suis un peu débrouillée seule. J'ai fait des recherches sur internet, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube et j'ai parlé avec mon prof d'histoire à l'école.
Alors, il faut revenir un petit peu sur le fait colonial, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux territoires dans le monde qui sont dominés par des puissances coloniales, qui sont principalement la France.
En 1940, le Niger était une colonie occupé par les Français, et comparé aux autres pays, aux autres colonies françaises de l'Afrique de l'Ouest, le Niger était quelque peu en retard, notamment du point de vue scolaire, et ce depuis 1945. Il y avait un taux de scolarisation qui était inférieur à 5%. Il y avait aussi un manque de développement au niveau du secteur industriel. Il y avait très peu, voire carrément presque pas d'industrie au Niger. Et les conditions de vie des Nigériens en ce moment-là étaient déplorables, étaient très dures. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'autorisation des activités politiques dans les colonies. Donc enfin, les Nigériens pouvaient participer à la vie politique de leur propre pays. Du coup, ça a attisé le patriotisme, c'est-à-dire l'amour pour leur pays, l'amour de vouloir voir développer leur pays par leurs propres moyens. Alors, il y a eu des mouvements internes liés à la frustration et au désir de diriger soi-même son pays. Il y a eu la création de partis politiques nigériens et à la fin, on a quand même réussi à passer à l'indépendance le 3 août 1960. Et je vais vous parler d'un homme qui s'est vraiment battu pour son pays, c'est-à-dire M. Jorge Amani, qui est d'ailleurs le premier président du Niger. Il est d'ailleurs reconnu un peu partout dans l'Afrique comme porte-parole de la volonté de l'Afrique.
Je dis que cette fierté est légitime car elle plonge ses racines dans la dignité sacrée de la personne humaine, dans son besoin de liberté.
Pour revenir sur l'homme qui a marqué l'indépendance du Niger, donc, M. Jorge Amani, il est né en 1916 dans une région frappée par le départ des tirailleurs sénégalais. On peut relier ce fait qu'il ait grandi dans une région de ce genre à l'élément clé de son patriotisme. Il est parti à l'école, il a poursuivi son parcours jusqu'à l'université. Il est même allé en France pour donner des cours de langue en Hausa. L'Hausa, c'est une langue nationale au Niger. Et après la Seconde Guerre mondiale, il a participé à l'indépendance de son pays, plus l'indépendance des pays panafricains, car c'était un grand représentant de l'AOF.
L'Afrique occidentale française.
Sans trop rentrer dans la politique, je sais que Dioré Amani a joué un rôle important dans la politique. Il a créé un parti politique.
Et il faut noter d'ailleurs que dans les années 1960, il n'y avait qu'un parti unique et dont le dirigeant était Dioré Amani. Le jour de l'indépendance, le 3 août 1960, pour tout le monde, c'était vraiment quelque chose de formidable, d'incroyable, surtout pour les grands-parents qui ont vécu ce jour, parce qu'ils le racontent toujours avec beaucoup d'émotion, avec limite les larmes aux yeux.
Oui, c'est un grand jour, c'est un jour historique.
Ce qui m'a surtout plu, c'est quand même l'habillement des gens qui aujourd'hui s'habillent comme une fête religieuse. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs que le stade municipal accueille tant de monde.
L'indépendance, pouvez-vous la définir en quelques mots?
Pour moi, l'indépendance, c'est notre dignité humaine.
C'est aussi un nouveau destin, comme l'a dit le président Amani Diori. Nous sommes en même temps égales comme toutes les nations du monde.
Le fait d'avoir retracé l'indépendance du Niger m'a permis de voir que ce dernier avait réellement évolué. Prenons tout simplement l'exemple de l'éducation. Le taux de scolarité était d'environ moins 2% dans les années 1960. Et à nos jours, nous sommes à plus de 50%. Et c'est un réel travail qui a été mené. Pour moi, l'indépendance est un événement assez lointain, parce que ça date quand même des années 1960 et on est en 2020, du coup ça fait à peu près 60 ans. Il ne faut pas oublier d'où on vient, il ne faut pas oublier dans quelles conditions nos grands-parents vivaient. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se sont battus pour avoir l'indépendance. On devrait être vraiment reconnaissant de pouvoir vivre dans l'indépendance maintenant, de pouvoir travailler et de pouvoir gouverner politiquement nos pays. Ma vision de l'indépendance, c'est que tu arrives à te débrouiller tout seul, sans vraiment... Tu arrives à subvenir à tes besoins, en fait. Ça va, le pays n'est pas extrêmement développé. Il peut mieux faire. Parce que si on prend l'exemple d'autres pays ouest-africains qui ont eu l'indépendance à peu près en même temps que le Niger, on se rend compte qu'ils ont un taux de scolarisation, des infrastructures, tout comme une économie qui est plus développée que le Niger, qui compte sur plusieurs pays. Donc, je ne sais pas. Certes, on a l'indépendance, mais est-ce qu'on peut vraiment se considérer comme tel? Ensuite, dans 60 ans, je suis convaincue que le Niger deviendra un pays développé. Et bien sûr, ne portera plus le titre de pays en voie de développement ou de pays sous-développé.
Merci à toi, Walia, lycéenne, pour tes recherches, pour tes réflexions personnelles aussi qui nous éclairent. 60 ans d'indépendance pour le Niger, ton pays. La date anniversaire, c'est ce lundi prochain, à suivre bien sûr sur RFI. Il y aura les émissions d'Alain Focat, tous les jours anniversaire d'ailleurs des indépendances à 17h10. Samedi, il y aura le Bénin. Lundi, donc, le Niger. J'en profite aussi pour lire le message de Mohamed à Ouaga qui a écouté le premier numéro de la série de Charlie Dupio hier avec Ninon sur le Bénin. J'ai eu beaucoup de soif d'apprendre. Elle a fait un bon rendu. Bravo. Voilà. Petits enfants des indépendances, c'est une série signée Charlie Dupio avec l'aide des archives sonores de RFI et avec le travail, l'étonnement et le regard des lycéens. À la réalisation, Michael Goncalves. Demain, l'indépendance du Burkina Faso racontée par Noël, lycéen. Et dans la salle de classe de l'école à la radio, on continue. Il y aura une autre leçon pour apprendre à écrire.
RFI présente.